Session d'introduction à la théologie par le père Philippe Arimont, le 7 octobre 1991.
Nous allons passer ces quelques jours, ces deux semaines, ensemble, pour essayer de mieux comprendre ce que représente la théologie. Vous n'entendez pas, hein? C'est bien, c'est le signal d'alarme. Pour mieux comprendre ce que représente ce mystère qui est la théologie. C'est un mystère participé. Comprendre que la théologie n'est pas n'importe quelle science, qu'elle est une œuvre à la fois divine et humaine, qu'elle est dans la lumière même du mystère d'incarnation, et que toutes les erreurs qu'on a commises par rapport au mystère d'incarnation, on les commet par rapport à la théologie. Je crois que ça, c'est la grande lumière, hein, qu'elle faut tout le temps venir. Parce que le théologien, vous voyez dans quel sens je veux le dire, selon toute la tradition, c'est Saint Jean. Pour les orthodoxes, Saint Jean est avant ce que nous appelons, nous, les théologiens. Saint Thomas est relatif à Saint Jean. Tandis que Saint Jean n'est pas relatif à Saint Thomas. Et Saint Jean n'est relatif qu'au Christ. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que le théologien parfait, c'est Jésus? J'ai dit, est-ce qu'on peut dire? Point d'interrogation. Je ne conclue pas. Est-ce que Jésus, dans toute sa vie, est-il celui qui lit le Logos, le mystère du Verbe, et l'intelligence humaine? Personne n'était aussi intelligent parmi tous les hommes que Jésus. Même il a la science infuse. Et il est le Verbe de Dieu. Et toute sa vie était en brique. Toute sa vie est au niveau du Verbe de Dieu, dans la lumière du Verbe de Dieu. Il est médiateur. Il transmet dans un langage humain. Araméen, hébreu. Et sans doute grec et latin. La grande lumière du Verbe. Or, le but de la théologie, la finalité de la théologie, ce pourquoi la théologie existe, pourquoi nous demander ça, quelle est la finalité? Nous sommes ici toujours pour la finalité. Il ne faut pas oublier ça. On sait que la grande, grande erreur de notre monde d'aujourd'hui, c'est d'oublier la finalité. Et de tomber dans l'efficacité. Et de tomber dans un positivisme. Il faudra de voir progressivement. La finalité de la théologie, c'est de transmettre le mystère de la parole de Dieu. C'est de transmettre cette parole vivante, cette parole efficace, cette parole qui purifie, cette parole qui conduit à l'amour. Spirans amorem. Je crois que c'est la finalité de la théologie. l'unité de la théologie est divine. Elle est surnaturelle. Un théologien parle aux croyants. Il ne parle pas aux incroyants, comme théologien. Il est ce philosophe. Le théologien est l'ami du philosophe. Puisque il se sert de l'intelligence humaine. C'est une sagesse. Et tous ceux qui cherchent la vérité sont des amis du théologien. Il n'a droit d'en exclure aucun. Oh, absolument aucun. Comme Jésus considère ses amis, tous ceux qui sont de bonne volonté et qui cherchent la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut, à tout prix, ne pas tomber dans une espèce de particularisme. C'est, je crois, que ça qu'il faut comprendre. Et c'est peut-être le grand problème d'aujourd'hui, n'est-ce pas? On est habitué à des systèmes théologiques. C'est affreux. La sagesse n'est pas un système, elle est sagesse. Et elle s'impose par elle-même. Elle est contemplative, elle est critique, et elle se développe par elle-même, parce qu'elle est sagesse. Alors, toute la question, c'est de savoir si la théologie est sagesse ou pas sagesse. Et vous verrez que c'est tout le temps la question. Si on est bien d'accord que la théologie est sagesse. Alors on va essayer de comprendre quels sont les caractères de sagesse. Ce sera déjà énorme. Jésus est un sage. Beaucoup plus que ça. Parce qu'il est fils de Dieu. Mais il est un sage. Il est un sage pour toute l'humanité. Il n'est pas un sage seulement pour quelques-uns. Il est un sage pour toute l'humanité. Donc la théologie, si vraiment on est des amis du Christ, si on est un théologien. On est des serviteurs du Christ, si on est un théologien. Si on est disciple du Christ, si on est un théologien. On parle en premier lieu pour les croyants, mais on parle pour tous les hommes. Puisque c'est la vérité. En sachant très bien que ce qu'on dit dans la lumière de la foi, seul le croyant peut l'accepter. Mais ma foi développe en moi tout ce qu'il y a d'humain. La grâce développe en moi tout ce qu'il y a d'humain et la foi développe en moi tout ce qu'il y a de vérité. Elle me permet de saisir toutes les vérités. Le théologien, à ce point de vue-là, doit être l'ami de tous les sages. Je crois qu'il faut, voyez, donner à notre théologie toute son ampleur. Toute sa grandeur. Autrement, vous voyez, on est une école. C'est après saint Thomas qu'on a parlé des thomistes. Saint Thomas n'est pas un thomiste. Ce que Père Congar rappelait, Père Chenu rappelait tout le temps. Ils avaient raison de dire ça. Le thomiste est une école. Et on a diminué saint Thomas. C'est pour ça qu'ici, on essaie de comprendre saint Thomas. C'est la grande raison. On verra ça progressivement. Au terme, je le dis tout de suite. Parce que saint Thomas est théologien d'église, c'est tout. Il est théologien. Ben, il n'explique pas tout. Parce qu'il n'est pas le Christ. Il est serviteur du Christ. Serviteur d'église. Et c'est un théologien. Et par le fait même qu'il donne la main à sa bonne aventure, il aime sa bonne aventure. Et il aime tous les pères de l'église. Il est à l'aise avec tous les pères de l'Église. C'est bien évident. L'Orient et l'Occident. C'est le grand avantage de saint Thomas. C'est que c'est encore sous la lumière de l'Orient et de l'Occident. Qu'il soit latin, c'est sûr, il est latin. Il est très latin. Mais qu'est-ce que ça veut dire une intelligence latine? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas une propriété de l'intelligence d'être latin ou d'être grec. C'est une propriété de la langue. C'est pas une propriété de l'intelligence. Parler latin, ça veut pas dire qu'on a une intelligence latine. Heureusement. Comme chanter le grégorien, ça veut pas dire qu'on a une contemplation grégorienne. Notre prière n'est pas grégorienne. Notre prière, elle est divine sous le souffle de l'Esprit-Saint. On peut l'exprimer. Alors à ce moment-là, forcément, on l'exprime pour des gens qui comprennent le latin, pour des gens qui comprennent la langue vulgaire. Je crois que ce que je dis là, c'est très très simple, mais on l'oublie tout le temps. On l'oublie tout le temps. On fait comme si la théologie était latine, grecque. Mais non, la théologie est une sagesse. Alors pourquoi est-elle une sagesse? Je crois que c'est la première chose qu'on doit voir. Pourquoi est-elle une sagesse? La théologie est une sagesse parce qu'elle parle de Dieu. Dios, logos. Le logos de Dieu. Le logos sur Dieu. Le logos qui s'intéresse à Dieu. En premier lieu. Or, la sagesse, c'est ce qui atteint ce qui est ultime. Ce qui regarde ce qui est ultime. L'anthropologie n'est pas une sagesse. C'est une anthropologie. Elle n'est pas une sagesse en tant qu'anthropologie. Elle est sagesse si je regarde que l'homme est capable d'atteindre Dieu et comment l'homme peut regarder Dieu. Alors à ce moment-là, mon logos dépasse l'homme et atteint le mystère de Dieu. Je crois que tous ceux qui parlent de sagesse regardent la sagesse comme ceux qui atteignent ce qui est ultime. Pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà de Dieu. Puisque Dieu est l'être premier, l'être suprême, selon toutes les traditions religieuses. Et ce qui m'est donné dans ma foi chrétienne. Ma foi me permet d'être directement en contact avec Dieu. Je crois si la foi me permet d'être directement en contact avec Dieu d'une manière très particulière, puisque c'est Dieu qui me parle, je vois très bien que nécessairement toute réflexion à partir de la foi qui respecte pleinement l'orientation de la foi sera sagesse. Alors la sagesse prend des formes très différentes. C'est sagesse, c'est quand même très important de comprendre ça, pour saisir qu'il y a dans la théologie un certain absolu. C'est très important de regarder l'évolution de la théologie, de regarder les différents moments de la théologie. C'est très intéressant, mais ce n'est pas la théologie. C'est le comment de la théologie. Comment la théologie se développe-t-elle dans la fin du XXe siècle? Comment la théologie est-elle aujourd'hui? Comment la théologie était-elle du temps de saint Thomas? Comment la théologie était du temps de saint Augustin? C'est toujours la théologie. Comment la théologie a été nommée en premier lieu en philosophie? Aristote appelle sa philosophie théologie. Donc, et il l'appelle théologie parce qu'elle est sageuse. Et saint Augustin reconnaît que la théologie est une science qui implique l'amour. Saint Thomas a repris cela. Parce que justement, quand il s'agit de Dieu, on est plus proche de Dieu en l'aimant que en l'analysant. Dieu, on ne peut vraiment le contempler qu'en l'aimant. Impossible autrement. Ce qui est vrai de Dieu est vrai aussi de la foi. La foi est une connaissance qui implique un amour. Propre de l'Église de la foi, du Concile d'Orange. Il y a une attitude affective qui commande la foi. S'il n'y avait pas cet amour de la vérité, cet amour de Dieu, puisque ce point de départ de la foi est surnaturel, donc c'est un amour divin, et c'est un amour surnaturel. Ce que en théologie, on a appelé la pia affectio. C'est un amour surnaturel qui pousse mon intelligence à avoir totale confiance en Dieu qui me parle. Et la foi me met dans ce contact direct avec Dieu qui me parle. Je reçois l'enseignement de Dieu. Et comme c'est important, parce que ça montre que tout ce qui vient de la foi est enveloppé d'amour. Et donc la parole de Dieu que je la reçois comme une parole que je ne peux recevoir que dans l'amour. Et c'est pour ça que la foi réclame la sagesse. En premier lieu, et que le logos sur Dieu ne peut être qu'un logos sapientia de sagesse. Qu'il s'agisse d'une théologie naturelle, philosophique, qu'il s'agisse d'une théologie surnaturelle, ce sera toujours avec ce primat de l'amour dans lequel l'intelligence va opérer. Je crois qu'il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. Ah oui. Pour vous être d'accord, n'hésitez pas, au cours de ces quelques jours, de noter les questions que vous avez. Parce que c'est pour vous que je fais le cours. C'est pour, vous voyez, que toutes les questions soient mises quelque sorte, bien en face. Parce que je connais pas toutes vos affections, toutes vos questions. Tout. Alors notez-les. Je dis pas que je répondrai à toutes. Mais j'essaierai d'y répondre. Et c'est important. Parce qu'il faut qu'on puisse vraiment coopérer ensemble. Vous voyez, je voulais vous dire dès le point de départ, je suis pas un spécialiste théologien. Puisque j'ai dû enseigner tout le temps en philosophie, on est très armé. En théologie, j'ai fait ma théologie, c'est impossible autrement. Et on est toujours théologien si on est croyant et philosophe. Et je ne suis pas un spécialiste. C'est peut-être mieux du reste. Parce que je crois que c'est la coopération de la foi contemplative et de la philosophie contemplative qui peut seule nous donner une vraie théologie. On le verra, ça. Et je vous le dis tout de suite. On le verra. Et je dis bien une foi contemplative, une foi aimante, qui va aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité. La foi ne peut pas s'arrêter en dehors du mystère de Dieu. Le propre du croyant, c'est de tout regarder dans la lumière de Dieu. D'un Dieu amour pour le croyant. D'un Dieu qui nous donne son Fils bien-aimé à la croix. On voit tout dans cette lumière. Et c'est là, dès le point de départ, vous verrez tout de suite la différence Est-ce que je vois Dieu à travers la parole de Dieu ou est-ce que je vois Dieu à travers la lumière de Dieu? Posez-vous cette question dès le point de départ. Parce que je crois que tous les équivoques viennent de là. Ça, je l'ai dit, c'est la foi contemplative. Hein. Si c'est pas la foi contemplative, on peut pas faire de théologie. Pas la peine. On fait des sciences. Je peux lire la Bible en philosophe. Je peux lire la Bible en historien. Je peux lire la Bible en philologue. Je peux lire la Bible en archéologue. Est-ce qu'on lit la Bible en croyant? Et on fait la théologie qu'en lisant la Bible en croyant. Et alors, je me pose la question, vous voyez, petite question très simple et capitale. Est-ce que je reçois la parole de Dieu comme une parole que je reçois dans la lumière de Dieu? Si je suis théologien, je regarde tout dans la lumière de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarder tout dans la lumière de Dieu. Et je reçois même la parole de Dieu dans la lumière de Dieu, puisque c'est Dieu qui me parle. En se servant d'un homme, c'est évident. Mais la politesse à l'égard de Dieu consiste à regarder que Dieu me parle en premier lieu. Je suis très impoli autrement. Mais c'est Dieu premier servi. Parce qu'il faudra voir, au cours de cette chose, si le positivisme, qui est le chien dent terrible devant lequel on se trouve aujourd'hui, pire que tout, si le positivisme ne nous fait pas regarder Dieu à travers sa parole. Quand je vois le traité de la foi chez saint Thomas, je vous dis que la question première commande tout. Quand saint Thomas nous dit que la raison formelle de la foi, c'est Dieu se révélant. Ratio formalis objectif. La raison formelle de la foi, c'est Dieu se révélant. Saint Thomas ne dit pas la parole de Dieu. Il montre ensuite la parole de Dieu nous transmet la parole de Dieu. Vous voyez, c'est le point de vue de la finalité, le comment. Est-ce que vous saisissez la finalité par elle-même ou est-ce que vous la saisissez par le comment? Ayant saisi la finalité, vous saisissez le comment. Mais si vous voulez mettre la finalité dans le comment, c'est un petit préambule que je vous donne là, n'est-ce pas ? Mais c'est les préambules qui sont le plus important, parce que on sait comment on regarde les choses. On peut les regarder de multiples manières. Mais ici, le but, c'est qu'est-ce que c'est que la théologie ? La question qu'on se pose, qu'est-ce que c'est que la théologie ? Comment faire de la théologie ? Et avant de savoir comment faire de la théologie, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la théologie. Et je vous montre tout de suite que la théologie implique un mystère. Donc, la théologie, comme telle, ne sera pas d'une évidence par elle-même. Elle sera évidente que par la foi. Et comme la foi n'est pas évidente, elle est certaine. Elle n'a pas d'évidence propre. Comme c'est important, ça. Vous me demandez quels sont les critères de vérité? La foi. Et la foi? Quels critères de vérité la foi? Dieu qui me parle. Positivisme, il veut un critère de vérité qu'il peut toucher. Il n'accepte que ça. Le critère de vérité, c'est la parole. Non. Saint Thomas nous dit que on ne fait pas de discussion philosophique sur les paroles, sur les mots. Parce que le philosophe cherche la vérité. Alors, a fortiori, au point de vue théologique, a fortiori, vérité, c'est quoi? On le verra. Mais je le dis tout de suite maintenant, parce que on est dans... Qu'est-ce que c'est que la théologie? Est-ce que le critère de théologie, est-ce que le critère de vérité de la théologie est distinct de la foi? Vous savez, cette chose qui nous déroute toujours, hein, nous avons tous lu, j'espère, la question première de la Somme. Quels sont ceux qui l'ont lu? Quels sont ceux qui ne l'ont pas lu? Il faut le lire pendant cette semaine-ci. Il faut lire et relire. J'allais presque dire, un théologien relit cette question chaque année. Chaque année. Parce qu'on oublie progressivement ce que c'est que la théologie. Et des tas de difficultés viennent de là. La doctrine sacrée. Alors on l'oublie. Alors on ne voit plus. Vous voyez? Quand saint Thomas montre la théologie, on est très gênés tous, on a tous connu ça. Mais quoi, c'est pas la théologie, la nécessité, mais c'est la foi. Oui, c'est la foi. Puisque la théologie est une science subalternée à la doctrine des saints. C'est pas une science libre, comme faire des mathématiques. Les mathématiques sont pas subalternées. Le mathématicien a une dignité de théologien, de mathématicien. Il sait ce qu'il dit. Il n'a pas peur. La philosophie n'est pas une science subalternée. Le philosophe peut à chaque instant vérifier ce qu'il dit et montrer que ce qu'il dit se ramène à l'expérience, se ramène à la saisie des principes. On peut toujours faire ça à chaque instant. C'est pour ça que les théologiens ont peur du philosophe. Aujourd'hui. Pas du temps de saint Thomas. Tandis que la théologie, elle est subalternée à la science des saints. Elle est subalternée à la science des saints par la foi. Donc, le critère de vérité est toujours la foi. Est-ce que ce que vous dites est conforme à la foi? Si c'est conforme à la foi, et que ça m'aide, ça m'éclaire, c'est théologique. Et la foi, on verra, elle dépend de l'enseignement d'Église, la foi catholique. Elle dépend de l'enseignement d'Église actuelle. Si je dis quelque chose qui est contraire à l'enseignement actuel de l'Église, est-ce que c'est encore théologique? Non. Il y a eu cette petite discussion, je dis à certains déjà, je le répète parce que c'est une manière d'introduire le problème. En séance de faculté de théologie à l'université de Fribourg, j'étais dans la faculté de théologie, c'est déjà quelque chose, vous savez, ça fait quand même une petite dignité. Même si je n'étais pas théologien, je faisais partie de la faculté de théologie. On s'est posé la question, mais vraiment, devant une thèse, est-ce que la conformité des conclusions de cette thèse faisait que conformité des conclusions de la thèse par rapport à l'enseignement actuel de l'Église. Est-ce que ça joue ou ça ne joue pas pour recevoir cette thèse? Vous voyez le problème? Une thèse, il y a des conclusions. Est-ce que ces conclusions qui seraient contraires à l'enseignement actuel de l'Église, est-ce qu'elles pourraient être reçues comme une thèse de théologie? Il y Bien la moitié de la faculté était pour, l'autre moitié était contre. Mais l'état actuel de ce que c'est que la théologie, ça veut dire tout simplement que la moitié de ces théologiens considéraient que la théologie n'est pas une science subalterne à la science des saints. Tout simplement. Et que le critère de vérité n'est plus la foi, mais un critère de vérité au niveau de la méthode. Et c'est la méthode qui donnait le critère de vérité. Oui, c'est pour montrer où l'on en est, ça. Dans quand même une faculté qui a son prestige. Et je crois qu'on trouverait ça, hélas, très, très souvent. Alors la thèse a été refusée, quand même. Et il a fallu poser le problème, comme ça. De façon donc extrêmement nette. Alors vous allez dire, c'était la grande objection. Mais alors, il n'y a plus de progrès dans la théologie. C'était l'objection majeure. C'est astucieux, du reste. Comment peut-il y avoir un progrès en théologie si on ne fait pas le cabri? Si on ne s'éloigne pas, on pose des thèses hérétiques et ça fait avancer. Parce que l'erreur fait avancer la vérité. Vous savez bien. Donc si l'erreur fait avancer la vérité, mais il faut qu'on ait des thèses erronées condamnées par l'Église. Et comme ça, on aura une faculté de théologie qui avancera. Parce qu'il y a toujours une petite parcelle de vérité dans cette erreur. Alors, vous voyez, comment répondre? La foi progresse. Dans une pénétration toujours plus grande de la vérité. Je peux expliciter toujours plus la parole de Dieu. Et je peux aller toujours plus loin dans cette explicitation. Jamais, parce que la parole n'est pas adéquate au mystère, mais elle contient en elle des virtualités infinies. Et ces virtualités, je dois, en tant que théologien, les développer à chaque moment de l'Église. Je dois revenir tout le temps. Donc il y a un progrès homogène à l'intérieur de la foi, à l'intérieur de l'enseignement de l'Église et de ma conformité à l'enseignement de l'Église. Il y a un progrès. Un progrès. Pénétration plus profonde et d'une explicitation plus juste. Donc un progrès dans le regard contemplatif plus profond et dans la manière d'exprimer cela. Il y a un progrès dans la théologie, c'est bien évident. Depuis saint Thomas, il y a un progrès. On ne répète pas saint Thomas, on se forme à saint Thomas. On est théologien du XXe siècle, quoi. Tout le monde n'est pas théologien. Et de la fin du XXe siècle. On est théologien à l'égard de l'Église d'aujourd'hui. Et on écoute les différents problèmes que l'Église nous pose de façon plus particulière. Vatican II. Et on revient constamment sur ce qui a pu être dit. Et on essaie de pénétrer davantage. Donc il y a un progrès à l'intérieur du mystère de la théologie. Parce que la foi est une connaissance imparfaite. Il n'y a pas de progrès dans la vision béatifique. Il n'y a pas de progrès en Dieu. Bien dommage. Dieu serait plus intelligent s'il y aurait un progrès, comme disent certains. Vous arrêtez l'intelligence de Dieu en disant qu'il n'y a pas de progrès. Mais alors là, notion tout à fait fausse du progrès. Seul l'imparfait progresse. La vision béatifique est parfaite. Tandis que la foi est imparfaite. Et donc la foi demande qu'il y ait un progrès dans la théologie. Et le progrès de la théologie viendra aussi dans l'ordre de la vérité. Donc, il faudra se poser, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est un problème tout le temps présent en théologie. Parce que la théologie, si elle n'est pas vraie, elle n'est plus théologie. Elle n'est plus un logos sur Dieu. Donc, il n'y a pas de danger, il y a un progrès. Mais c'est pas le progrès qu'on cherche. On cherche à vivre de la vérité et de pouvoir la communiquer à tous ceux qui sont proches de nous. C'est pour ça qu'un théologien qui cherche l'originalité pour l'originalité n'est plus un théologien. Et l'Église, de temps en temps, lui dit. Quand l'Église a dit que Hans Kühne n'est plus théologien, l'Église reconnaissait qu'il ne cherchait plus la vérité. À partir de la foi. Et qu'il cherchait un développement extrinsèque à la foi. Tout simplement. Le dirigeant reste toujours une science subalternée à la science des saints. J'insiste là-dessus parce que je crois que c'est justement là l'erreur de toute la théologie contemporaine, du moins toute la théologie qui se veut contemporaine, vous voyez, qui se veut originale, donc de beaucoup de théologiens d'aujourd'hui, qui ne comprennent plus que la théologie est subalternée à la science des saints. Donc, elle est essentiellement contemplative. Essentiellement contemplative. Puisque la science des saints, c'est la vision béatifique. Vous voyez que Jésus est le théologien parfait. Et qu'il exprime autant qu'on le peut, en pauvre mot humain, quelque chose qui est un absolu. Quelque chose qui est divin. Et humain. Si on comprend que la théologie est sagesse, logos sur Dieu, tout simplement, qu'elle fait appel à notre intelligence humaine, on comprend que la théologie implique une coopération constante entre foi et intelligence humaine. Et je dis bien foi et intelligence humaine. Dans une recherche de vérité. Dans une recherche contemplative sur Dieu. Et sur l'homme. Et sur tous les mystères. Sur le Christ, c'est sûr. Sur l'Église. Le théologien est donc toujours un serviteur. Le théologien, comme théologien, n'est pas un sage. Bien que la philosophie, la théologie soit sagesse, le théologien n'est pas un sage. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la science des saints. Il est subalterné à la science des saints. C'est pour ça que l'état de la théologie est si particulier. Alors je sais bien qu'on pourra dire, oh mais j'accepte pas ça, ça c'est saint Thomas qui dit que la théologie est subalterne à la science des saints. Oui, on pourrait dire ça. Saint Thomas a précisé là quelque chose de très très grand. C'est pour ça qu'il dit nous le problème. Et que le problème tourne où à saint Thomas. Alors, comprenons que même si saint Thomas l'a pas dit, on doit essayer de le comprendre. Parce que tout le monde est d'accord que c'est le croyant qui est théologien. Or, le croyant, il est dépendant de la révélation. Il est dépendant directement de Dieu qui se révèle à moi à travers un langage, à travers une histoire. dis donc, je suis dans cet état de dépendance. Je sais très bien que ma foi ne me donne pas l'évidence. Ça, je crois que c'est de foi. Si on regarde les divers moments où l'Église a précisé ce que c'était que la foi, Concile d'Orange, Vatican I. Concile d'Orange, le point de départ de la foi, c'est l'amour. Concile Vatican I, la foi est une adhésion de l'intelligence au mystère révélé. Adhésion de l'intelligence et non pas la foi confiance et la foi expérience. Expérience religieuse. Ces deux grands aspects de l'Église. Or, dès que je comprends ces deux aspects, dès que j'essaie de saisir ces deux aspects-là, je vois nécessairement que la foi est en dépendance de quelqu'un qui me parle. Ce qu'on appellera la révélation. Et donc, si je suis dans cet état de dépendance, dans l'obscurité, tout ce qui viendra de la foi gardera l'obscurité de la foi. Et ne me donnera pas l'évidence. Et que l'évidence est au-delà de la foi. Elle est dans le fait de voir Dieu. Et c'est ce qu'on appelle subalternation. La science, la théologie est subalternée à la science et ça. Oui, c'est la première chose que je crois capitale à tout le temps de se rappeler. Je résume, attitude contemplative, recherche de la vérité. La présence de l'amour, comme dans toute contemplation. Et acceptation d'une science qui dépend, subalternée à la vision béatifique. Et comme je n'ai pas sous la main quelqu'un qui a la vision béatifique, pour lui demander si ma conclusion est conforme à la science, à la vision béatifique, j'ai reconnu.